Remplacer François Bord, c'est impossible. Porter l'héritage de la revue, c'est un peu énorme puisque Phoenix, moi j'ai rejoint l'aventure par strat, par amitié, c'est-à-dire en étant contributrice, en ayant la chance il y a quelques années d'avoir un fragment de travail d'un recueil qui s'appelle Méduse ma chère, qui a été publié, d'avoir des échanges avec François, de rentrer en tant que lectrice déjà dans la revue, et donc dans le public se trouve une amie, Bénédicte Le Seine, qui est en charge d'une enveloppe rouge dans laquelle vous pouvez piocher un petit code QR fait maison, spécial Phoenix, qui vous permettra d'arriver directement sur le site et de découvrir le comité de rédaction, d'accéder à tout un tas d'articles. Voilà. Donc Phoenix, c'est et puis vous allez compléter bien évidemment tous les deux, Étienne particulièrement. C'est l'héritage de la revue Sud, Autre Sud. C'est une histoire de lien entre Paris, Marseille, mais c'est le Sud, c'est Marseille à la base. Voilà. Et c'est une revue qui comment dire, à cette particularité de faire voyager, d'être ponctué à la fois de se constituer autour d'un dossier qui donne un éclairage extrêmement riche sur un poète, une poétesse, et puis aussi au fil des pages d'avoir des travaux en cours dans la rubrique Sporade, de faire venir voilà une diversité assez importante. Qui permet de se dire de se dire que en fait le poème c'est un vaste chantier, la poésie c'est un énorme champ, et je depuis que j'ai la chance, donc vraiment depuis peu, de faire partie du comité de rédaction, je me rends compte à quel point c'est un enjeu vraiment sensible, politique aussi, de faire des choix, d'accueillir, de constituer numéro, et je n'en ai que plus d'admiration pour ceux et celles et ceux qui ont mené tous ces numéros. Étienne, qu'en penses-tu?
C'est tout. Merci. Ouais, j'allais dire lâchement tout est dit, parce que je suis arrivé, non pas dans la revue, puisque je n'y participe pas, mais je veux dire, là comme ça, ça va. En interne, je n'y suis pas, mais en réalité, je suis contributeur, on va dire ça comme ça, à la fois comme auteur, mais également à travers des contributions critique que je fais de temps en temps, et puis finalement en troisième lieu le dossier que Phoenix m'a consacré. Donc c'est une revue que j'ai découverte grâce au Salon de la Revue, et puis à François, bien sûr. François Bord, c'est le même que celui qui est absent, hein, il n'y a pas d'erreur, et donc c'est une revue quand même avec une couleur et un ton particulier, mais qui, depuis que je la connais, c'est une poignée d'années, mais a évolué encore. C'est-à-dire que on pourra en reparler. C'est une revue même d'aspect qui a évolué. C'est assez étonnant, mais je pense que c'est le sort à peu près de toutes les revues. Mais évidemment, à des vitesses ou avec des partis pris différents. Là ici, il y en a un que je trouve très heureux. On pourra en reparler, ou à moins qu'on en parle maintenant, sur même son aspect extérieur, qui peut se résumer comme ça, hein. Si on le regarde chronologiquement, on a ça. On a ça, c'est-à-dire on a trois presque objets différents. On en a un petit peu austère, hein, qui nous rappelle un peu les années 90 ou autres, avec quand même un graphisme qui est joli, qui est intéressant. Et puis, on passe à la photographie, aux découvertes, du côté de 2017. Je crois que j'étais dans les premiers à bénéficier de cette nouvelle touche. Et puis enfin, le troisième, où c'est la photographie, mais c'est un peu plus simplifié. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément qui a disparu, c'est cahiers littéraires internationaux. Un cahier littéraire international, c'est là. Ici, ça apparaît en plus gros, et là, ça a disparu. Alors, je ne sais pas ce que les Myrtaux ou d'autres personnes de Phoenix pourraient donner comme commentaire sur ce point-là, ou pas, hein, je ne sais pas. J'en ai jamais parlé avec François, mais je sais que c'était une volonté d'estomper cet aspect-là. Voilà, mais je présente peut-être plutôt sous forme de question parce que je n'ai pas de réponse. Mais enfin, ça dénote une volonté claire de faire évoluer quand même le look, mais aussi peut-être l'intention de la revue.
Oui, alors moi, je n'ai pas forcément tous les tenants et les aboutissants, donc ça sera sans doute formidable de pouvoir échanger avec le public. Mais c'est vrai que, pour le coup, je vous ai amené quelques exemplaires. Alors, Étienne parlait de l'esthétique, mais on peut parler aussi, justement, de ces fameux dossiers où là, par exemple, cette diversité et le côté international n'a pas été abandonné, parce que on passe d'Elisa Macadam pour la Roumanie, on revient en France avec Lucie Taïeb. Donc là, j'ai amené Étienne, forcément. On a Marie Cosnet. Titos, oui, qui était dans les derniers numéros. Oui. Enfin, le voyage continue.
Oui. Donc. En fait, je pense que c'est plutôt un parti pris plutôt d'allègement. Mais pas d'intention, parce que en effet, c'est même ce qui caractérise fortement la revue, c'est sa dimension internationale active et constante.
Hein. Oui.
Eh bien, bonsoir à tous. Donc moi, je suis Anne Dugin, et je suis là vraiment en tant qu'invitée. Je vais parler très modestement par rapport à Anne et Étienne, puisque je n'ai publié qu'une fois dans Phoenix, dans le dernier numéro, à l'invitation de François Borde. Encore lui. Mais je crois que ce qui avait suscité chez François l'envie peut-être de m'associer à cette soirée, c'est que je suis rédactrice en chef d'une autre revue qui s'appelle Esprit. La revue Esprit, qui n'est pas une revue de littérature, qui n'est pas une revue littéraire, qui est une revue d'idées et de culture, comme on aime à dire. Enfin voilà, c'est ces grandes et vieilles revues généralistes françaises dont il reste encore quelques-unes, dont la nôtre, fondée en 1932. Et voilà, et donc je pense que donc j'étais très sensible à ce que disait Anne sur le projet du chantier. Ça, je crois que ça définit la revue comme objet de manière générale. À Esprit, on dit espace de tentative. C'est-à-dire, une revue est un espace de tentative. Quand on donne un article à une revue, c'est en général une première pierre, une première étape de la réflexion qui peut ensuite donner un livre ou des réflexions peut-être plus construites. C'est un espace de tentative, et ce qui fait la tentative, c'est le collectif qui la reçoit, qui le partage, qui le lit, qui en juge d'abord aussi, parce que le principe qu'il y a un comité de rédaction, c'est qu'il y a des gens qui lisent les textes et qui disent ça nous intéresse, ça nous intéresse pas, etc. Et donc cette dimension qui est effectivement très importante en littérature et en poésie en particulier, je pense qu'elle a vocation à définir plus largement l'objet revu comme un espace, comme un collectif. Et de ce point de vue-là, Phoenix est complètement dans cette vie-là de ce projet qui est une revue. Et voilà. Et moi, je l'ai connue comme lectrice de ces dossiers, en effet, très bien faits, très nourris, sur des auteurs que ça permet de découvrir en profondeur et selon différentes facettes. Et je suis aussi très sensible à la dimension internationale et au voyage. Alors, c'est rigolo parce qu'à Esprit aussi, on a été sous-titré pendant longtemps Revue Internationale et on ne l'est plus. Alors même qu'on a gardé cette ambition de faire écrire des gens différents, de s'intéresser à d'être ouvert en fait tout simplement sur le monde et pas franco-français. Je pense que dans notre cas, et c'est peut-être le cas pour cette revue, mais évidemment le débat permettra de le dire davantage, c'est que Revue Internationale laissait penser qu'il y aurait eu des correspondants dans d'autres pays, un vrai travail avec des rédactions à l'étranger, ce qui n'est pas le cas. En revanche, des réseaux d'auteurs non français qui nous donnent certaines des textes ou nous un effort de traduction, voilà, mais on avait le sentiment qu'il y a quelque chose d'un tout petit peu abusif de s'appeler revue internationale alors qu'on avait une rédaction parisienne et un comité de rédaction à 99% français. Voilà, mais en revanche, je salue en tant que lectrice le gros travail aussi qui est fait sur le plan de la traduction, de la découverte des auteurs, des poètes étrangers, qui me paraît être une des grandes richesses de cette revue aujourd'hui.
Alors, est-ce que pour entrer dans la revue, Étienne, tu veux bien nous parler de l'expérience d'être un dossier ? Peux-tu nous parler du dossier Étienne Faure ?
Avec plaisir, j'en suis ressorti vivant, c'était déjà ça. Mais c'était une belle aventure qui a été menée donc par Myrto Gondikas et puis François Borde. C'est une aventure donc qui a commencé de façon très artisanale, donc on n'a pas trop abusé du clic et de l'écran. À ma surprise, au départ, on s'est rencontrés dans un café, dans même plusieurs cafés. Enfin, c'était le matin, hein, c'était encore assez raisonnable. Mais donc ça, c'était plaisant, c'est-à-dire qu'on a travaillé notamment sur la définition, l'identification des personnes qui seraient amenées à prendre part au dossier, parce que c'est pas si neutre que cela. C'est-à-dire choisir une poignée de personnes, en général, c'est dans les dossiers de Phoenix, c'est entre 6 et 7, le format est à peu près à chaque fois le même, et choisir 6 ou 7 personnes, et selon leur profil, c'est déjà donner une couleur à un dossier et un ton et peut-être une façon aussi d'aborder un auteur. Je pense comme ça par parenthèse à ce que fait Europe, qui aussi fait des dossiers et qui parfois a une couleur un peu plus universitaire pour un numéro, un petit peu plus amical ou de témoignage pour un autre, etc. Le cocktail, il n'est pas aisé et pourtant il n'est pas neutre, il est important. Donc là, j'ai eu cette chance-là, c'est de discuter tranquillement avec mes deux anges gardiens, appelons-les comme ça, pour définir des personnes qui plutôt n'avaient pas, c'était ça le critère, écrit sur ce que je faisais jusqu'ici. J'avais eu pas mal d'attention, justement de Jean-Baptiste Parra, d'Olivier Barbarin, de Feu Kéchichian, de Petillon, de Tristan Hordet, avec qui j'avais fait des entretiens. Donc on a pris le système un peu à rebours en cherchant des personnes qui connaissaient un peu mon travail, mais qui n'auraient pas encore écrit. Et donc ça a donné la liste que je ne connais pas encore par cœur, mais donc on a eu bien sûr François Borde et Myrto Gondikas, et puis Jean-Claude Pinson, donc qui est d'origine universitaire, qui est poète, essayiste, et qui donc a un regard déjà très générique et en même temps très pointu. Stéphane Bouquet, qui un peu a beaucoup de talent, il est poète, il est essayiste, il est traducteur, il est même danseur, il est cinéaste, enfin il est parfait, il sait tout faire. Gilles Ortlieb, qui lui est un petit a une dimension de poète, d'écrivain, d'essayiste, puisqu'il a fait pas mal d'études, de petites études sur les écrivains, et qui bien sûr est un traducteur important. Marie de Quatre-Barbes, qui en son temps était plutôt poète, essayiste, et qui le demeure, mais qui aujourd'hui également à la responsabilité de Corti. Et puis il y a Feu Julien Bosque, qui m'avait écrit un poème un petit peu, disons, amical. Et puis le dossier à chaque fois est complété par un entretien entre François et une personne, en l'occurrence c'était Jean-Pierre Chevet, qui dirige les éditions Rehaut avec Hélène Durdilly, et puis qui a beaucoup sévi du côté de l'édition Feugré. Excusez-moi, je suis un peu long, mais tout ça pour dire que ce dossier, j'ai regardé à chaque fois, c'est à peu près le même format, le même gabarit, c'est-à-dire à chaque fois il y a un entretien et puis donc des plumes, des bonnes volontés pour parler, mais avec ce cocktail qui est très intéressant. Donc de cela, ce que j'en tire, c'est qu'on apprend toujours à mieux connaître ce qu'on fabrique. C'est ça c'est ça le plus rigolo de l'affaire, c'est qu'on cause de vous, bon, en bien par chance, mais en plus, ça permet un peu de mieux s'éclairer soi-même. Voilà, je ne sais pas si c'est... Ça, c'est...
Moi, je rebondis. Merci. Je pense qu'en fait, c'est toi qui vas veiller, entre autres. comment je rebondis moi sur cette question d'éclairage parce que en fait ce que par exemple dans le dernier numéro paru consacré à Serge Héroldi, on peut retrouver dans le dossier ce désir de conversation, c'est-à-dire de en tant que lecteur lectrice d'être comme au salon, comme chez soi, lorsqu'on est avec une œuvre, lorsqu'on est avec un auteur, une autrice, et puis aussi cette possibilité de ne pas justement tomber dans la critique, dans ce qu'elle aurait peut-être de trop tranchant, de trop affirmé, mais de bénéficier en fait de moult regards qui viennent kaléidoscoper une œuvre, un parcours de poète. À savoir là, par exemple, pour Héroldi, on a Isabelle Alentour, on a Sébastien, non, je dis n'importe quoi, là je suis dans le partage des voix. On a François Borde, on a Florence Delay, Pierre Villard, Lydie Salvert, Claro et Serge Héroldi, by himself, on va dire, c'est-à-dire qui a carrément donné des fragments inédits. Enfin, voilà, ce dossier à chaque fois est quand même, pour reprendre le thème de la soirée, un atelier aussi. Qu'en pensez-vous ?
Eh ben moi, en tant que lectrice, je ne peux que concourir à cette sensation. En tout cas, c'est bien ça qui ressort quand on plonge dans un numéro. J'aime aussi l'équilibre général du sommaire, c'est-à-dire que il y a un dossier qui est consacré à un auteur et ça, il me semble que de numéro en numéro, c'est comme des nœuds en fait les dossiers qui articulent le travail collectif. On va travailler sur un tel, on va travailler sur une telle, on va travailler sur un tel. Et ça fait un peu comme des bouées sur une ligne de flottaison, c'est-à-dire que le travail collectif, il est organisé comme ça. Et puis autour, on retrouve des rubriques qui reviennent. Je veux pas dire de bêtises en me trompant leur nom, mais voilà, partage des voix, voix d'ailleurs, sporade. Et donc, c'est comme un repère autour de ce nœud qui est le dossier le dossier autour d'une personnalité qui permet d'inclure de la diversité, de l'actualité éditoriale aussi, puisqu'il est tout simplement question de ce qui est sorti récemment, de ce qui se passe, et ça importe, il me semble, dans une revue. Et donc ce fil du sommaire et ce rubriquage, il donne bien, je trouve, la diversité des enjeux qu'il y a à faire une revue de poésie, c'est-à-dire à la fois plonger en profondeur dans une œuvre et se donner le temps de l'explorer, ses multiples facettes, etc. Avoir des cahiers de création ouverts, de choses en travail, en construction, et puis rendre compte d'une actualité éditoriale qui existe et que les revues sont aussi là pour faire vivre. Donc cet équilibre, il fonctionne à l'échelle du sommaire, c'est très sensible.
Oui, non, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on peut parler des sporades. Qui sont quand même une petite invention, je crois que c'est annoté quelque part, de Jean Blot et de François Borde en 2012, et qui ont bien fonctionné. Hein. Je crois qu'il y a eu pas mal d'auteurs qui ont bénéficié de cette rubrique, on va dire, avec donc cet avantage peut-être d'avoir un petit peu plus d'ampleur. Ça me fait un petit peu penser à vous savez, à la forêt, avec vous avez les grands fûts, c'est-à-dire on va dire le dossier où la chose un peu plus visible, et puis il y a le sous-bois, donc les sporades pourraient en faire partie, et puis il y a les taillis, il y a toutes ces petites lectures par derrière qui viennent aussi composer l'espace de la revue. Et je trouve que les sporades, c'est intéressant parce que cette espèce d'option intermédiaire qui nuance un petit peu l'accueil des auteurs.
Eh bien, alors je pense que c'est le moment parfait pour peut-être commencer à entendre. Si je pense que je vois des signes d'assentiment dans le public, voilà, des hochements de tête. Alors qui de vous deux?
Merci. Donc encore une fois, c'était la première fois que je publiais dans cette belle revue. Une pensée t'a retenu un instant de trop, et toute la réalité, les objets, la lumière et ton corps aussi, ont fait un pas dans le temps sans t'attendre. Le bol et le vase au bord de la table, le vélo adossé au mur derrière la fenêtre, plus nette, découpée sur l'arrière-plan quotidien. Et même ta main posée sur la rampe, que tu ne reconnais plus. Au moment de les rejoindre, sauras-tu garder la distance qui les tient distincts et libres, vibrants de leur vie propre. L'enfant en forêt. Son monde intérieur est encore assez vaste pour se mesurer à la réalité. Le rocher comme une montagne à gravir, en héros, et la racine où bute son pied, pèse le même poids sur les plateaux du réel et du possible. Entre les deux, le fléau frémit, qui indique les trois chemins de l'existence. Le balancier. Un soleil timide apparaît derrière le cortège lent des nuages. Les taches de lumière s'élargissent, découpent au sol la silhouette des arbres, des réverbères, et l'ombre en nous recule. Et le nuage suivant approche, l'ombre à nouveau avance, relance en nous le doux balancier de l'espoir et du doute. Le vertige. Certains disent qu'Ulysse est reparti. Lui que le retour aurait dû combler, s'il n'était resté au fond de sa mémoire, sous les racines de son lit, le trou béant, oublié, qu'aucune aventure ne parvint à ravauder, et plus dangereux qu'aucun gouffre marin. Il en est pourtant qui ont appris à vivre, au bord de leur vide, après l'avoir reconnu. Ils font parfois pousser des fleurs, déplient autour quelques chaises de jardin. Et sans jamais s'habituer au vertige, se demande seulement qui pourrait le partager. Mars. Comme nos attentes engourdies par l'hiver, dans les arbres, les feuilles sont encore enroulées à l'intérieur des branches. Mais plus pour longtemps. Elles sortiront sans crier gare, en avance, sur nous qui n'aurons rien vu venir, agitant bientôt sur le fond gris du ciel et des toits de zinc, devant nos yeux incrédules, les fanions verts vifs de l'espérance. Et un tout dernier, qui résonne avec le sud, vœux. Le matin, dans certaines rues de la ville, on entend les goélands, mais sans les voir, sitôt disparus derrière un angle de toit, et l'on se demande si l'on n'a pas rêvé, si ce cri n'était pas en nous comme un vœu, enfantin, sur le chemin du travail, de voir soudain surgir au fond d'une rue le trait grave et bleu si souvent guetté, pour un instant, que la mer nous soit rendue. Merci.
Ce sont des inédits ou c'est dans le recueil que tu sors ou qui vient de sortir ?
Alors effectivement, un recueil est sorti là en avril chez Gallimard, mais ce sont des inédits. C'est-à-dire que à l'invitation de François, ce recueil était déjà terminé. Et donc ça, ce sont des textes qui ne sont pas dans le recueil. Voilà.
Étienne, est-ce que tu m'accordes d'être la seconde lecture ?
Non, vas-y, je t'en prie.
Oui, donc c'est bien. Tu me l'accordes donc.
Oui, adjugé.
Vendu, je ne sais pas trop, mais... Alors, pardonnez-moi, je trouve ma page.
Lorsque je parlais de chance et de reconnaissance, l'extrait que je vais vous lire, c'est le prochain recueil. Donc, j'étais encore en cours, en recherche. Donc, c'est un bout d'atelier que je vais vous lire d'un recueil qui s'appelle Macadam Donna et qui est autour, en fait, d'une rencontre intellectuelle, philosophique et sensible avec l'œuvre de Donna Haraway. Présentation de l'un des deux protagonistes du poème, Lucas. Lucas est un acronyme anglais pour Last Universal Cellular Common Ancestor, la dernière cellule, le dernier ancêtre commun de tous les êtres vivants, le premier être vivant hypothétique dont tous les existants descendent. Le deuxième protagoniste du recueil devrait vous être familier. Au début, un samedi, peut-être bien un 17 janvier si le poème est chuchoté. Vent sud-est à 6 km/h, risque de pluie 0%, humidité 73%, visibilité 10 km, selon l'œil. Indice UV faible, il fait 3 degrés au matin, il fera 7 degrés l'après-midi. Au début, tout désir semble infertile. Au début, ça tient, se tient. Grelot dans une tempête. La raison de Caliban délie le cœur de Prospero. Au début, ça tient, se tient. Comme un trombone qui flotte dans un verre d'eau, le sourire d'Ophélie dans les pupilles d'Hamlet. Numain dit « Ça n'est qu'une histoire de liaison hydrogène. » Ce n'est pas totalement faux. Dans les marges du réel, au sud de la Californie, des pigeons voyageurs correctement équipés sont capables, de récolter en continu et en temps réel des données relatives à la pollution atmosphérique. Ils sont aussi à même de se déplacer dans les airs jusqu'à des hauteurs inaccessibles aux instruments officiels. Et ce, depuis le sol d'où on les lâche pour qu'ils volent jusqu'à leurs pigeonniers. À savoir, les données recueillies peuvent également être diffusées au public en temps réel sur Internet. Source, Donna Haraway, Vivre avec le trouble, page 140. Alors, au début, sous la coque ajourée des côtes, s'organise, pelote dans l'urgence des brins de défaite, des bouts de renoncement. Au début, le poème comme une île, les pinsons de Darwin dans les reins et cette goutte de pluie tombée en marge des prédictions. Mouté, mouté, moutam, latin ou non, poème ne sait toujours pas ce qui s'âme, s'arme et se trame dans l'être et ses déclinaisons. Si vivre est mouvement, poème des débuts chevauche l'effondrement, la première cavalcade s'ébouche au territoire du deuil. Alors, de la vie, Numain élabore une définition robuste, une définition ouverte, mais pas trop. C'est l'angoisse, Numain, le berceau et la tombe et le berceau. Heureusement, les côtes font sépulture, dernier devoir, éternel exercice, quelque chose, se baptise Lucas et enfile une robe blanche. Sac de papier froissé orné d'une bouche, en dessous, ni vulve, ni queue, pas même anus. Pas tout de suite en tout cas. Lucas fermente en elle-même, sécrète une vie même sans oxygène. Molécule désirante, Lucas, sans le savoir, pratique l'oraison. Épine des origines, dans la fosse cérébrale sans relâche, brûle un tronc. Numain marche, court, s'active, s'épuise, s'endort les muscles en crampe et rêve, s'échauffe, mais à l'aube, toujours pas de feu dans les paumes. Sa première angoisse a peut-être vu fleurir la nuit ou s'enfuir un ruisseau. Prostré dans son lit de pierre aux pattes de lion, gavé d'herbes rouges et d'ardents champignons, le désir de Numain enfle dans sa boîte crânienne, passe de 500 à 1500 cm3 environ. Tumeur grandit, elle aussi, se déplace avec lui. Numain l'a toujours eu dans l'os. Ça aussi, c'est écrit. Lorsqu'il est triste, Numain, quand il perd l'un des siens, le coiffe de limon, prend les fleuves à témoin et, en leur ventre, en deuil, fait pleurer quelques dieux. Il faut bien inventer quelque chose, quand on reste sur le bord, condamné à n'être qu'un débris, parmi d'autres, dans le grand amalgame.
Ta première publication dans Phoenix ou tu avais c'était déjà apparu.
Et je me mets de l'eau partout. Non, j'avais, c'est ce que je disais en introduction, j'avais eu la chance du recueil précédent, parce que celui-là sera chez Corlevour en janvier, d'avoir un extrait de monologue poétique. Et comme j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter des chroniques poèmes qui sont un travail qui arrive en fin de revue ou sur le site, sur la question de ce que lire les autres fait au corps, à l'esprit. Voilà.
Je vais finir le cercle en vous lisant quelques textes des deux numéros qui m'ont accueilli. À chaque fois, effectivement, on voulait parler de l'atelier que peuvent constituer les revues par rapport à de futurs recueils. Effectivement, là, ce que je vais vous lire, les trois extraits ont figuré à chaque fois dans trois recueils différents. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a une espèce de sas qui s'opère ou d'antichambre. Donc voilà, celui-ci, ces textes-là étaient parus dans Tête en bas. C'est une période hivernale que j'ai dû connaître, sans doute à cette époque-là. Ça s'appelle « Quand la bise fut venue », pour l'extrait de l'ensemble. Je vais vous en lire un ou deux. « Quand le froid cingle, embue la vue, certains jours au cœur de l'hiver, et qu'il neige en série sur nos vies, cave à charbon, ces mots doublement sombres, soudain éclaire un soupirail. On respire, on y voit, les tons nuancés des gris anthracite, toutes les têtes de moineaux ressurgies, visibles et non plus supposées. L'œil dépasse la mémoire, puis sombre à nouveau dans le souvenir, dès que le noir l'interdit, fait rentrer le coq des années défuntes. On y voit goutte, peu à peu, la mémoire s'habitue, lumineuse, retrouve ses visions dans l'espèce de cachot qu'est le crâne, déclare sa flamme. Le nez de longue date, c'est de quoi il retourne, une odeur parvenue là, qui demeure une fois pour toutes. Ça pourrait s'appeler soupirail. C'est un mot sympathique parce que quand on le met au pluriel, il change complètement d'allure. Et au début, quand on apprend le vocabulaire, c'est quand même ces mots-là qui sont un peu casse-tête pour les étrangers aussi, mais ça reste quand même une énigme, ces espèces de mutations comme ça à la faveur d'un pluriel, le soupirail. On est toujours dans le froid. Tous les vêtements que tu portas, la mémoire, depuis l'enfance n'en peut mais, inventorie en vain les peaux successivement aimées, ne reste qu'un caban aux boutons armés d'encre, un pull vert en laine chinée, un pantalon pied de coq, une canadienne à jamais chiffonnée et l'écharpe en soie verte, les mitaines, toutes peaux en allée vers leur usure, de nippes, de hardes, de fringues, de frusques, sans valeur ni portée, presque un tissu de mensonges, dénués d'importance aujourd'hui, simples mots inhabités, soudain sans effet, sur le monde et la vie qu'à nouveau on mesure, endosse en des versions rêvées ou réelles, XL ou L, médium ou small, la vie, puis boutonne, relevant le col, le froid transperce. Ça pourrait s'appeler habitacle au pluriel. Et puis deux petits extraits, je ne vais pas abuser du, qui sont parus, l'un dans Vol en V et l'autre Et puis prendre l'air. Froid au milieu, tiède autour, le cœur est comme un pain décongelé. Nous survolons les contrées inconnues, oubliées des années, laissées pour compte d'une histoire nôtre. La voix du steward, en changeant de langue, a changé de phonation, annonce la neige, puis le printemps, la plaine empoussiérée d'été, l'automne à l'atterrissage, des enfants sous la haute protection d'un rosaire au cou, surplombent leurs ancêtres, ont des facilités avec les dieux dans les airs, les côtoient, les tutoient sans le savoir, dans la même langue et un léger accent désormais. Puis l'avion se rapprochant du sol préconçu, terre, la place aux arcades serait presque joyeuse, n'étaient les sourcils des morts d'où s'envolent les salves de pigeons ramiers et des bulles de savon. Pof. Ça pourrait s'appeler le cœur décongelé. Que pèsent les nuages et que durent les dieux? Que fuit-il? Il pleut. La ferveur redouble dans les églises, bat son plein, puis cesse au soleil qui point. Ici, nul midi, ce médium incertain, entre les heures qu'on nomme matin et la torpeur mimant la sieste. Un simple allègement des bruits, le marteau ralenti sur le toit, la scie qui s'égosille un peu, moins, ne crie plus, la vie s'est raréfiée. Un instant, puis repart, point de pause ni syncope, rien qu'un entrain jusqu'au soir, petit concert qu'un cas à vivre en deçà, au-dessus, comme font morts et vivants leurs souvenirs, qui remontent le temps comme on respire, mentalement à l'appui des photos sépia, les colorise, tel un reflux de sang, empourprant les morts. Flac. Ça pourrait s'appeler « Les dieux pleurent », etc. Et puis, juste deux petits textes en prose, autour des bancs, c'était extrait d'un ensemble qui s'appelle « Éloge appuyé des bancs » et qui a été publié dans « Et puis prendre l'air ». C'était la période de Covid d'ailleurs, où tout le monde m'a dit « mais c'est une imposture ». Mais non, le titre avait été trouvé avant le Covid, « Et puis prendre l'air ». « Éloge appuyé des bancs ». Matin, midi et soir, comme un médicament, le soleil est à prendre sur ce banc pour éloigner le noir, se tenir hors la pénombre de la cambuse, la turne, la piaule, le cagibi. Ou moins si affinité avec l'infortune. Le sort maintient dehors, les nids, toutes feuilles tombées, sont visibles aux bifurcations les plus hautes. C'est de là qu'on peut chuter quand on est oisillon qui démarre dans la vie ou vieux corbeau chenu. Rater son envol ou son atterrissage, claudiquer sans remède. Puis un dernier pour la route. Compact, cet homme est à l'étroit dans ses actes, son bissac est serré, ses moindres gestes inaptes à se déployer, prendre essor. Un gros sac lui sert de studio ou d'appartement, ses mains y circulent sans arrêt, repassent dans la cuisine, poche arrière, reviennent dans la poche principale, y séjournent un moment puis sortent et s'aèrent. Cigarette. Au balcon de la poche externe, il a accroché un foulard qui sèche. C'est pour ça, il faudrait refaire l'intérieur. Voilà.
Pour finir, je vais vous proposer, et je trouve ça toujours plus aisé, de porter la voix des autres et d'être dans cette circulaire qui pour moi est extrêmement généreuse parce que je peux pas citer tout le monde et c'est pour ça que je tenais à ce que vous ayez ce petit code QR, que vous alliez voir la revue. Il y a André Huitteau, il y a Karim De Broeker, il y a des contributeurs, des contributrices, Maud Thiria, Laure Gauthier, enfin il y a vraiment de l'échange. Là les poèmes, les textes, les fragments arrivent aussi par cette générosité-là, ce travail-là de saisir, de traduire. Donc, pour des raisons un peu simples, plus agréable à la lecture et je l'espère à l'écoute. Sachez que j'ai fait le choix de lier trois voix. Celle d'Elisa Macadam, dont je vous parlais, qui est roumaine, et où il y a un profond texte de Karim De Broeker qui l'accompagne en dossier. Rachel, qui avait été accompagnée par la voix de Bernard Grasset et qui est née en Ukraine, et Machine Van Dust, qui a été traduit, apporté dans la revue par Franck Merger. Allumons une bougie, dit-elle, pour que la bourrasque trouve son chemin. La voix s'est secrètement cassée dans l'oreille sourde. Des étagères, les livres tombent sur moi. La nuit prend peur et s'enfuit. Je respire le cœur dans la gorge. Bribes de cauchemars. J'ai mal à la poitrine à cause de cette vie et je ne sais si demain j'aurai encore envie d'ouvrir les yeux. Elle me manque. La joie figée sur le visage des gitanes. L'enfant me demande « Maman, ça fait combien 2 et 2 1000 ans ?» Je donne un biscuit à une mendiante bosniaque. La touriste ukrainienne écarquille les yeux en fixant les statues dans le square de la gare. Une joie. Deux joies. Silence vocal. Renversée sur le lit matrimonial, Axi Mundi, la dalle démographique est bondée. La liberté se vend sous forme pré-contractuelle. Au dîner, les cierges pleurent. Je t'apporte au moins un verre, un fragment de poème tous les soirs, rituellement. Je dénoue les regards ahuris, je défais avec mes doigts le sort de l'effroi existentiel. Le mauvais œil vert submerge la page blanche. Chute primordiale, Europe exténuée, allée vers le nord de la parole, au sud de nos silences. Cantique des cantiques, pose-moi comme un sceau sur ton cœur. Il y a des jours, le monde autour de toi n'est que symbole dont tu ne sais le sens. Il y a des jours où la splendeur de ton ciel se trouve broyée en cendres, en sang. Il y a des jours de serviteurs, serviteurs humiliés, tourmentés de chaînes. Il y a des jours sans sauveur et sans amis. Il y a des jours comme des sombres nuits. Nous dansions comme deux chiens attachés par une chaîne, et c'est ce que nous appelions amour. Les lèvres se joignent, mais les cœurs se séparent. Le cœur craint le cœur. La main du destin fait danser les fauves du désert en une unique chaîne. Et dans l'ivresse de la danse, le cliquetis du fer n'est entendu qu'une voix qui implore, supplie. Pose-moi comme un sceau sur ton cœur. Et rappelle-toi l'oubli et son dictame. Après la ciguë de la perte, lâche la main du monde, allume une bougie pour que, jusqu'à nous, la bourrasque trouve son chemin. Est-ce qu'on ouvre, en fait, avec vous, est-ce qu'il y a des retours, des questions?
Non, c'était très beau tout ce qu'on a écouté. D'ailleurs, je trouve que c'est une des vertus des revues comme Phoenix, de faire entendre des voix tellement diverses, qui ne dissonnent pas pour autant, mais qui concertent à l'occasion d'un numéro. C'est très beau. Je voulais simplement faire deux saluts de personnes qui n'ont pas été nommées, mais comme vous disiez, il y en a beaucoup d'autres. Je voulais quand même saluer André Huguetto, qui est quand même le fondateur de cette revue, même s'il ne m'en occupe plus désormais, je crois, à la place centrale. Enfin, je ne sais pas, mais je le devine. Donc, oui, rappeler qu'André fut quand même le créateur de Sud, je crois, le créateur d'autres Sud, dans la mémoire des Cahiers du Sud. Donc, c'est une longue et belle histoire. André, qui est par ailleurs aussi un merveilleux poète et un grand traducteur. Donc, je voulais lui faire ce petit salut amical. Et puis aussi, en amitié, saluer quelqu'un qui s'appelle Brian Murat, qui a été jusqu'à tout récemment un peu l'acteur de la transformation physique de la revue, qui est un artiste complètement fou et merveilleux. Voilà, je crois, avant de s'en éloigner, mais je crois qu'il a beaucoup participé à la recréation de cette revue. Et enfin, je voulais dire que François est certes absent, mais je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'il a toujours été là ce soir, parce que comme beaucoup de revues, en fait, elles sont collectives et pourtant on sent une patte, on sent un sceau. Et je vois dans les choix récents, en tout cas, je vois le grand lecteur qu'est François. Hein, je pense à Marie Conné et à Serge Géroldi, dont je sais qu'il est très friand. Donc voilà, c'est curieux comment une revue à la fois collective comme ça est quand même empreinte des goudins qui, peut-être, à un moment donné, mènent plus la barque, ou en tout cas plus la force, ou plus l'envie, en tout cas, ou qui permet à la revue de continuer à se métamorphoser. Donc, je voulais au moins saluer ce travail, depuis d'ailleurs le numéro dont il a été le responsable, qui a été consacré à un poète assez remarquable, quand même, qui s'appelle Étienne Faure, dont on vient écouter des choses d'une fois de plus merveilleuses. Et en plus, non, mais ce qui était tout à fait intéressant, je trouve, sur le dossier qui t'a été consacré, de voir à la fois, quand il avait été présenté, non pas ici, mais dans un lieu précédent, à la fois écouter Stéphane Bouquet, c'était une merveille ce qu'il a dit sur toi, et avoir quelqu'un comme Marie Quatrebarbe, qui n'a rien à voir avec ce que tu fabriques, avoir une autre pertinence, ça, je trouve que c'était aussi du talent de savoir réunir des gens aussi divers qui sont aussi manifestement de merveilleux lecteurs de poésie.
Oui.
Voilà.
Oui, c'est. On va faire l'éloge de François en son absence. C'est un grand classique, mais c'est vrai qu'il a cette force et oui, ce talent de mettre en présence sans être, on va dire, à tout craint. Un spécialiste ou de ceci ou de cela, mais il met en présence avec une force qui se dégage en effet dans la revue à chaque numéro. C'est assez amusant, je trouve, dans le cas de Phoenix, ce côté bicéphale entre Marseille et Paris qui a l'air de bien se passer, enfin de bien fonctionner, pour ce que j'en ai comme écho, quoi.
Et André sera présent au marché de la poésie. Et donc, son aura et sa présence sont toujours bel et bien là. Donc, mais ceci dit, merci de les avoir mis particulièrement en valeur tous les deux. Parce qu'en fait, pour rebondir sur ce que vous dites, je crois que peut-être dans le désastre, humain, la question de qui a à voir avec quoi, peut-être que les repères, les hiérarchies changent, en fait. Ah, j'ai cassé l'ambiance, là, en parlant du désastre du monde, je m'en excuse.
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous venez de dire, à la fois André Chabin et Étienne Faure, à propos des personnalités d'André et Brian Murat, André Huguetto, Marseillais donc, nous sommes ici, et ce n'est pas une facilité, mais en présence aussi des auteurs ou des membres parisiens de la revue. Et je reviens à tout au début de cet échange, à la dimension internationale d'études qui disparaît, c'est une chose. Nous venons de recenser à Entrevue une toute nouvelle publication électronique qui s'intitule Reste, bon, c'est un choix, et qui a un parti pris, en tout cas, de ne pas accueillir d'auteurs parisiens ni franciliens. Et donc, ça, je faisais un peu ce parallèle avec le fait des dimensions internationales ou de quel territoire parle-t-on, et Phoenix, donc, ce serait un tropisme parisien et marseillais, ou c'est plus compliqué, plus étendu, qu'en est-il des territoires? D'autant que dans vos lectures, vous avez évoqué pas forcément des lieux, encore que François Borde et Étienne vient de publier un recueil qui porte un titre parisien, François épuise un lieu parisien. Alors je me posais la question des territoires. Voulez-vous reprendre?
Qui a Myrto qui donne depuis longtemps une dimension grecque à Phoenix, donc on peut dire que elle n'est pas, elle est vraiment internationale de fait. Comme je disais, André en plus est un immense traducteur, donc il a introduit. Donc, je crois que son inscription était marseillaise par la personnalité qu'il a créée, mais sa volonté a toujours été d'irradier très très largement. Mais c'est vrai que Je vous conseille d'aller lire cette petite revue Reste, effectivement, qui est délicieuse et en plus elle a le talent d'être gratuite et d'être numérique. Donc effectivement, tout d'un coup, on nous est renvoyé une sorte de miroir, de se dire mais finalement, on vit dans l'entre-soi. Donc en fait, je crois que si on devait faire une critique à cette revue, c'est que ce n'est pas vrai. D'ailleurs, le salon de la revue le démontre chaque année, où la moitié des revues, au moins, viennent d'ailleurs que de Paris. Enfin, Yannick pourra me contredire. Donc, la littérature se fait effectivement ailleurs qu'à Paris, et c'est tant mieux.
Oui, je ne sais pas si on peut d'ailleurs évoquer le rôle important du salon de la revue. Dans le dernier numéro, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le dernier numéro de la revue des revues, le préambule est vraiment génial et très bien. Puisque vous citez Margelle, hein, qui fait un petit résumé en quelque sorte, qui catapulte un petit peu l'ensemble des réactions par rapport à vos difficultés vitales. Et je trouve que ce préambule est très intéressant, y compris pour définir un peu ou approcher ce que c'est qu'une revue ou quel peut être son rôle, à la fois avec cette séquence de la période écoulée, donc de garder ce que disait Anne, un peu ce rapport avec le temps et une fraction de temps et ce qui s'est passé dans cette période et le recul qu'on peut aussi essayer d'avoir dans une revue. Et puis la deuxième partie, c'est la revue, c'est-à-dire se revoir et se revoir encore, et cette fonction que le salon fait avec tellement de force chaque année, qu'on peut resaluer ici. C'est dommage qu'on n'ait pas de plus d'ampleur pour le crier haut et fort, mais franchement, le salon, s'il n'existait plus, le salon des revues, ce serait, en effet, même d'ailleurs dans le préambule, ils l'envisagent, ils disent, et c'est vrai que sans salon, les revues continueront d'exister. Ah bon, d'accord, mais enfin, il y a toute cette interaction qui manquerait, quoi. Donc vraiment bravo pour ce numéro et cette entrée en matière que je trouve très...
Maud a fait un petit texte sur ce sujet que nous avons eu le plaisir de publier sur le site sous le titre « L'amour des revues ». Ce n'est pas la passion quand même, c'était l'amour. Et elle cite à quel point les revues sont importantes dans son travail et à quel point... Justement, le salon en est une sorte de précipité, en plus bouillonnant, étincelant, etc. Bon, je vais faire de l'autopublicité plus longtemps, mais je crois que ce n'est pas faux et je le remercie.
Après, au travers de tout cela... ça pouvait sembler dérisoire, cette histoire de faire un code QR pour ce soir, mais en fait et c'est pour ça que je parlais du site, parce que l'idée c'est de réfléchir comment dans en fait une les temps où nous vivons, où la dématérialisation en fait a d'énormes enjeux en fait philosophiques, sociétaux, c'est comment aussi jouer avec certains outils. Je suis un peu fatiguée du vocabulaire guerrier, j'allais dire arme, mais de fait, se servir du numérique, porter les voix pour les diffuser, donc pour pouvoir élargir des territoires. Par exemple, moi, je vois que grâce à cela, je peux l'emmener. Je suis extrêmement active en atelier d'écriture en banlieue parisienne et notamment avec mes amis, mes compagnes d'aventure artistes, beaucoup en Seine-Saint-Denis et pour soutenir la revue, je ne lâche pas la question du numérique, parce que ça permet et ça devient aussi l'enjeu même aussi du livre, puisque les revues portent des livres en germe ou des livres qui ont déjà germé. Donc cette question du territoire, oui, bien sûr, Paris, bien sûr, parfois l'étouffement, oui, les mégapoles telles que Marseille, mais pour l'instant, sans nier cette préoccupation-là, il me semble que c'est important justement de décaler la façon de le regarder pour s'en servir, mais autrement, en fait. Je ne sais pas si je suis claire.
Ceci dit,
parce qu'en fait, on peut parler d'économie aussi. C'est-à-dire, c'est quoi en fait ce temps investi pour les contenus, ce temps pour les rédiger, les mettre en forme, les imprimer, les diffuser. C'est quelque chose d'extrêmement riche en termes politiques, la question d'une revue.
Nous en sommes bien d'accord, et c'est vrai que nous pouvons continuer sur ce thème. Ce pourrait être très utile pour des stagiaires, par exemple. J'en profite pour saluer ici Chloé. Mais c'est vrai. Et cette dimension économique qui existe dans le monde des revues, surtout les revues papier, quoique le travail, souvent impayé, mal payé, du numérique, et qui habitue à la gratuité, rajoute une autre dimension. Mais l'un des commentateur du Salon de la Revue, pour en reparler, revuiste lui-même et que nous avons accueilli il y a quelques semaines, quelques mois, donc ce n'est pas la revue Esprit, j'ai dit étude tout à l'heure, mille excuses, non, c'est Lakis de l'Atelier du Roman, qui insiste beaucoup, lui, sur le fait que le monde des revues n'est pas un monde de concurrence. Et si j'évoquais la question des territoires, je peux renvoyer aussi, décidément. C'est vrai que c'est une soirée d'auto-promo pour Entrevue, la revue des revues. Abonnez-vous, le numéro 70, où il y avait un panorama, une histoire sur une quarantaine d'années des revues poétiques à Nice, précisément. Et il y en avait beaucoup, une émulation comme un creuset. Et j'ai demandé à d'aucuns, quelques témoins, de faire en pendant de façon battle un article qui dresserait le portrait des revues à Marseille, justement, parce qu'il semble que ces dernières années, une énergie se déplace. Alors donc, cette question des mégapoles n'est pas forcément au détriment d'un constat ou d'une critique qui serait faite, mais simplement d'une énergie qui se dégage. Même si certaines revues sont faites discrètement et un peu à l'écart, Margel, par exemple, voilà, la question reste posée, mais aussi d'une économie et d'un rapport au public. N'est-ce pas, cher public? Avez-vous quelque chose à en dire?
C'est vrai que ce serait quelque chose à étudier, mais là, il faut des plumes qui soient des plumes peut-être ethnographiques plus que peut-être journalistiques. Il y a des moments comme ça où il y a des foyers de création de revues. Et il y a des villes qui en sont. Par exemple, il y a eu Lyon pendant un temps. Il y avait énormément de revues lyonnaises. Il y a eu Montpellier. Pour d'autres raisons, c'était pour des raisons un peu financières, je crois, parce que la bourse était bien dotée. Et il y a Marseille. Donc, ça traduit quelque chose. Alors, on ne sait pas si ça traduit toujours la bonne santé d'un territoire ou au contraire, ses difficultés, sa détresse. Ben, non, mais c'est vrai, souvent, les revues sont extrêmement vaillantes quand ça ne va pas. Je ne sais pas si on ne fait pas de revues en cas de mauvais temps. Sous un ciel comme ça, orageux, c'est souvent, on ne va pas comparer, mais dans les dictatures, c'est sous d'autres formes, mais elles sont souvent extrêmement vives, vaillantes, parce qu'il faut retrouver des espaces où quelque chose de l'ordre de la création puisse se faire. Donc, c'est un truc, marrant. Bordeaux, par exemple, à ma connaissance, n'est pas une ville de revue. Je veux bien que tu m'en cites trois, par exemple. Il y en a eu forcément le long du siècle. Il y a eu des revues, mais c'est pas ce qui caractérise. Alors que Lyon, Marseille, Paris, quelques autres ont été comme ça des foyers de revues, mais je n'ai pas d'explication. Voilà, donc c'était plutôt un prolongement qu'une... Alors, la Bourgogne, maintenant, est un lieu... Bourgogne.
Donc, au Côte-du-Rhône. Non, j'ai rien de bourguignon, mais si on parle d'économie, c'est vrai qu'il y a une question qui est pertinente, que notre tuteur, le CNL nous posera un jour ou l'autre, ou nous pose indirectement, qui est de savoir combien de personnes vivent des revues. Vous allez me dire, la question n'est pas pertinente, mais si on nous la pose, on ne peut pas faire des, comment elle dit l'autre, des mouvements de gazelle pour l'éviter. À un certain moment, il faut le dire. Il faut dire que les personnes qui travaillent à des revues, pour des revues, ne vivent pas des revues, pas souvent. Savoir combien elles sont et cette énorme débauche et fournaise d'énergie dont vous parliez les uns et les autres, aussi bien pour créer ce qui est publié, puis pour le mettre en relation, pour le commenter, pour le mettre en écho, et puis pour le diffuser, puis pour nous retrouver ici, ce que font les amis d'entrevue. Donc, à un moment, il faut aussi accepter cette question économique pour dire c'est justement parce qu'il y a sur, je sais pas, moi j'ai l'impression, à ce que je connais du marché de la poésie, que sur une centaine de revues, il y en a 10 qui ont un salarié. C'est beaucoup. C'est moins. Il faut que vous veniez au salon. Il faut qu'ils soient au salon, qu'elles soient au salon aussi. Tiens, oui, vas-y, tu réponds.
Non, on ne va pas faire un débat entre nous deux, mais je crois qu'il y en a très peu. Alors, les revues universitaires sont à part, parce qu'il y a des gens qui sont généralement déchargés de cours ou chargés de... Mais pour les revues, on va dire, associatives, il y en a vraiment... je ne sais pas, vous en voyez, vous ? Moi, je n'en vois guère. Je vois homme et migration, esprit, et puis au-delà, peut-être études, la revue des deux mondes,
commentaires,
Europe. Et puis, mais effectivement, il y a tellement de travail pour peu de salariés qu'on ne peut pas mesurer. Voilà, c'est incommensurable. Le travail et le nombre de salariés. Ce qui ne veut pas dire que ça ne génère pas une économie. Hein, que ça fait quand même travailler beaucoup de gens. Une revue. C'est pour ça que c'est à la fois négligeable dans l'économie générale et absolument pas négligeable sur tous les gens que ça mobilise pour que ce produit à la fois improbable et nécessaire puisse exister.
Oui, non, je disais juste que c'était une bonne façon de lutter contre le désastre dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, enfin, alors pour le coup, moi, je vais passer par un extrait que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime de façon plus large, mais un extrait qui est important pour moi de Deleuze dans sa conférence à la FEMIS. Quand il parle en fait de littérature, qui parle de Dostoïevski, et sur cette question en fait le monde brûle, et le monde brûle, oui, mais bah, excusez-moi, en fait, faut quand même que je m'arrête. Il faut que je m'arrête parce que je dois créer, parce que je dois penser, et je pense qu'en fait les revues, c'est comme vivre de sa poésie. Ça veut dire quoi ? C'est vivre en poésie. C'est parce qu'on participe à des revues, parce qu'on les défend, parce qu'on les porte, que en fait on continue de vivre, qu'il y a des réseaux d'amitié, de soutien, il y a des nourritures intellectuelles qui permettent de d'accéder à des subsistances fortes, voilà. Donc ça, enfin, là, on est dans un rapport à l'essentiel qui est inchiffrable.
Et je me permets juste d'ajouter qu'effectivement, la revue Esprit fait partie des rares revues qui arrivent, alors indépendantes, je le dis, c'est-à-dire qui vivent de leurs abonnés et de leurs ventes en librairie et en kiosque, qui arrivent à dégager. Alors, au cours de l'histoire, entre 1 et 4 salaires, on va dire, et voilà, il y a eu des périodes plus ou moins florissantes, et ça a jamais été gagné, ça a jamais été facile, mais on perd jamais une occasion de rappeler qu'une économie comme la nôtre, même quand elle même quand elle est inscrite dans l'économie marchande, puisqu'on vend et puis après on paye des salaires et des prestataires, ça repose très largement sur l'économie du don de tous les auteurs qui nous donnent des textes qui ne sont pas payés, de tous les membres de notre comité de rédaction qui participent, qu'on appelle, qu'on sollicite, qu'on dérange au téléphone quand il se passe quelque chose de grave, qu'on réunit et qui font ça, qui donnent ce temps et cette énergie parce qu'ils ont le sentiment de participer à quelque chose de plus grand qu'eux qui compte. Et donc ça rejoint tout à fait ce que disait Anne. Donc même dans le cas de revues qui sont de fait inscrites dans l'économie, pour le dire ainsi, je suis pas sûre qu'il y ait une revue qui puisse faire qui fasse l'économie, sans mauvais jeu de mots, du don et de la gratuité, qui à mon avis définit assez largement le modèle économique de beaucoup de ces entreprises intellectuelles.
Oui, dans le dans le numéro 60, j'avais parlé de troc passionnel. Donc, je crois que nous retombons sur nos pieds. On est bien d'accord qu'on est hors circuit marchand quand même, mais que par contre, il y a une vivacité inextinguible des revues qui meurent aussi, mais qui naissent, quoi, à une vitesse parfois un peu vertigineuse, mais quand même avec un terreau vivant extraordinaire, quoi.
Oui, Étienne évoque le numéro 60 de La Revue des Revues, une excellente revue.
Et moi, je vous conseille le dernier numéro de La Revue du Mousse, qui est justement sur les visages inattendus du don et qui ouvre en fait des perspectives, qui met en lumière des choses déjà existantes et qui apporte aussi de quoi nourrir d'autres façons de travailler, d'échanger et qui recoue aussi justement, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, des choses qui sembleraient peut-être n'avoir rien à voir entre elles.
Et puis on peut parler également du don du temps que l'on peut accorder à un public d'une autre façon, et ce sera une manière de conclusion puisque derrière vous on aperçoit quelques images, une toute petite, mais parce que c'est un peu lointain encore, pour le salon de la revue qui se tiendra les 11, 12, 13 octobre à Paris. Mais d'ici quelques jours, vous pourrez rencontrer notamment André Huguetto et les animateurs de la revue Phénix au marché de la poésie, ou avec quelques autres revues disséminées parmi les éditeurs, vous pourrez faire de très belles rencontres, de beaux textes et de belles personnes. Merci à vous et à bientôt. La prochaine soirée, ce sera à la rentrée, donc avec les moments littéraires, veillez sur les réseaux sociaux et d'ici quelques semaines, donc, cette soirée est retransmise sur le canal U. Merci d'être là. Merci à vous.
Merci. À bientôt.